Et je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu. On va tourner quelques pages dans le livre, la lettre de Paul aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Lettre de Paul aux Éphésiens, nous lisons au chapitre 6, des versets 10 à 24. Et nous terminons aujourd'hui du coup notre étude sur ce livre. Éphésiens 6, versets 10 à 24. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi, comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Pour que vous connaissiez vous aussi ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychique, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Jusqu'ici notre lecture. Fini les belles paroles, envolés les beaux discours, place désormais à un nouveau champ lexical. On parle là de combat, de puissance, de veille et d'armes. Terminez les notions de grâce, d'unité, de réconciliation, place désormais à la testostérone, à l'homme, le sanguin, le combattant. Oubliez l'espoir d'un monde meilleur, place désormais au diable, aux puissances du mal, au champ de bataille, au combat rapproché. En d'autres termes, place à la vie, la vraie, l'actuelle. Si certains peuvent penser que la Bible en général, et le Nouveau Testament en particulier, sont écrits pour ceux qui aiment les belles histoires, qui ont besoin de s'échapper un peu, de rêver, voire de planer, ils se trompent. Ce texte de Paul est très clair. Nous avons contre nous un ennemi. Un ennemi bien identifié, un ennemi à combattre. Et pour être apte à ce combat, Dieu désire nous équiper de plusieurs armes. Et la prière n'est pas le moindre des éléments dans cette bataille. Alors, qui est cet ennemi? Avec quoi le combattre? Et par-dessus tout, à quoi Dieu nous appelle-t-il dans cette mission vitale? C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin. 90% de la lettre de Paul aux Éphésiens est composé de théologie, d'une part, et de vie pratique, d'autre part. En d'autres termes, de théorie et de pratique. Dans les trois premiers chapitres, nous l'avons vu ces dernières semaines, Paul nous présente le salut par grâce. Par grâce, et non par nos propres mérites. Jésus-Christ nous fait passer de la mort à la vie. Nous, juifs et non-juifs, hommes et femmes de toute nation, tous ont accès au salut. Voilà le fameux mystère dont Paul est le porte-parole. La puissance de Dieu s'est manifestée en Christ, dans l'amour, pour les pécheurs. et se manifeste par l'Esprit dans notre vie, à nous, croyants, pour nous donner de connaître l'amour de Dieu et nous apprendre à aimer. Et dans les chapitres 4, 5 et le début du chapitre 6, Paul encourage ses lecteurs à vivre dans la communauté, dans l'Église, dans l'unité du peuple de Dieu. En devenant chrétien, une vie nous est ouverte et Paul nous invite à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes et d'imiter Christ. Et ce, dans toutes les sphères de notre vie sociale, l'Église, le couple, la famille et le travail. C'est beau. Elle est belle, cette épître. Et si je me place dans la peau d'un premier chrétien, à Éphèse ou dans les environs, au premier siècle après Jésus-Christ, qui reçoit cette lettre de Paul où on entend la lecture, je me dis, pas mal comme programme, ça donne envie. Oui, cet appel de Paul donne envie. Et nous pourrions dire Amen, nous arrêter là. Mais ce n'est que 90% de la correspondance de Paul à l'église d'Éphèse et aux églises alentours. Quels sont les 10 autres pourcents ? Ils sont moins glorieux, à première vue, c'est sûr. Ils font un peu moins envie, nous ramenant durement à la réalité. Comme après un vol au-dessus de l'océan, où l'on se permet de planer un peu. L'atterrissage est parfois plus violent, et pourtant bien réel également. Alors relisons les versets 10 à 13. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Après ces enseignements théologiques et ces encouragements pratiques, Paul nous dit « oui, mais ». Oui, mais attention à ne pas planer. Nous ne sommes pas déjà sur la nouvelle terre et sous le nouveau ciel promis par Dieu après le retour du Christ. Nous sommes encore sur la terre souillée par le péché et sous le ciel entravé par le mal. Et nous avons un ennemi. Un ennemi qui, par définition, s'oppose à Christ et s'oppose donc à nous, enfants de Dieu. Non seulement nous devons en être conscients qu'il est là, qu'il existe, mais en plus nous ne devons pas le perdre de vue, de peur qu'il ne nous trompe. Alors qui est-il, cet ennemi ? L'ennemi, c'est le diable, Satan. Et certaines puissances et autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, les esprits du mal, à ses ordres. Voilà notre ennemi. Et si nous essayons d'y voir un peu plus clair entre ces différents termes, voici ce qu'il en ressort. Et je vais m'appuyer là sur l'excellent commentaire de John Stott, très clair, très accessible, très pertinent. Je me permets de m'en inspirer très largement. Alors déjà pour Paul, les puissances et autorités désignent des êtres surnaturels, intelligents et démoniaques. Certains théologiens ont pu considérer que l'apôtre évoquait ici des structures ou des organisations, des traditions, des lois, des autorités, ou même des religions, incarnées particulièrement par l'État et ses institutions. Et pourtant, il n'en est rien. Ce passage déclare très clairement que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, des hommes et des femmes comme vous et moi, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres et les esprits du mal dans le monde céleste. C'est-à-dire non contre des forces humaines, mais contre des pouvoirs démoniaques. Ces forces surnaturelles sont liées au diable et associées au lieu céleste, au monde invisible de la réalité spirituelle. Mais même s'il est invisible, la parole de Dieu nous parle clairement de son existence et nous invite à nous méfier de son influence réelle sur notre monde visible. Jésus lui-même a fait face à ce monde à plusieurs reprises dans son ministère, notamment lorsqu'il chassait les démons. Attention cependant à ne pas tomber dans l'extrême inverse. En affirmant que ces forces sont surnaturelles, nous ne nions pas du tout que les puissances et autorités décrites dans cette épître puissent se servir de structures, de traditions, d'institutions, en bien comme en mal. Tout comme Dieu et le diable cherchent à se servir de nous, en bien ou en mal. Il faut ainsi que l'Église et c'est encore aujourd'hui d'actualité, en tant que nouvelle société de Dieu, s'interroge sur les normes et les valeurs de la société contemporaine, et surtout sur les évolutions proposées, et prennent part au débat, pour apporter une pierre chrétienne à cet édifice aux enjeux élevés. Alors maintenant que nous avons tenté de cerner plus précisément les termes employés, allons plus loin dans l'identification de cet ennemi. Et d'abord, pourquoi prendre la peine de l'identifier ? Parce que si Dieu a l'intention de créer une nouvelle société, composée de femmes et d'hommes nés de nouveau, qui ont Jésus-Christ pour Sauveur et Seigneur, ces puissances du mal font tout pour s'y opposer. Parce que si Dieu a renversé sur la croix de Jésus les murs de séparation entre les différentes nations, Satan s'efforce de les restaurer. Et parce que si Dieu désire que son peuple réconcilié et racheté vive dans la pureté, l'unité et l'harmonie, les émissaires du diable font tout leur possible pour semer la zizanie. Ces forces lancées contre nous, chrétiens, par le diable, ont trois caractéristiques. D'abord, ce sont des forces puissantes. Ce sont les pouvoirs du monde des ténèbres. En soi, la puissance est neutre. Elle peut être au service du bien, comme au service du mal. Mais ce sont aussi des forces mauvaises. Ce sont les esprits du mal. La puissance qu'ils ont est utilisée à mauvais escient pour détruire, diviser, faire tomber l'être humain. Souvenons-nous que ces forces puissantes et mauvaises n'ont aucun code moral, aucune pitié. Elles écrasent tout sur leur passage et s'engouffrent dans la moindre brèche. Car ce sont des forces rusées. Paul nous parle de ruse ou de manœuvre du diable. L'ennemi est rusé. S'il peut parfois se présenter en plein jour, en pleine lumière, c'est pourtant souvent de manière déguisée qu'il apparaît, comme un loup dangereux pénétrant dans l'enclos du troupeau de Christ, déguisé en brebis. C'est un ennemi qui s'approche sournoisement comme un serpent. La persécution directe ou la tentation que l'on voit venir ne sont pas ses seules armes. Au contraire, il préfère souvent nous induire en erreur. Il est fourbe, cherche à nous tromper, à nous faire trébucher, pour ensuite nous terrasser à terre et nous y laisser. Alors comment résister à cet adversaire ? Impossible si nous restons seuls. Il est bien trop fort et rusé. Nous sommes bien trop faibles et naïfs. Et pourtant, combien de fois avons-nous compté sur nos propres forces, nos propres efforts, oubliant l'ennemi que nous devions affronter et courant à l'échec ? Seule la force de Dieu et sa pleine souveraineté peuvent nous défendre et nous délivrer de la ruse et de la puissance du diable. Car Dieu est plus puissant. C'est lui qui a créé le diable et ses puissances mauvaises, qui étaient à l'origine des anges au service de Dieu. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, ces mêmes lieux dans lesquels agissent les puissances et autorités. Ils ont été vaincus à la croix et sont désormais sous les pieds de Christ et sous les nôtres. Le monde invisible dans lequel il nous attaque est ce monde où règne Christ et où nous régnons avec lui, par avance. C'est pourquoi Paul nous invite à puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Cette puissance qui a mis le diable à terre. Et nous sommes là face à deux encouragements de la part de Paul. Deux encouragements qui témoignent d'un subtil équilibre que nous retrouvons souvent dans le Nouveau Testament. D'une part, Paul nous appelle à puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et d'autre part, nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Parfois, nous sommes si sûrs de nous que nous croyons pouvoir nous tirer d'affaire sans faire appel à Dieu et sans armure. À d'autres moments, nous pensons que l'adversaire est trop écrasant pour pouvoir nous en tirer. Dans ces deux cas, nous faisons erreur. L'équilibre est plus subtil. Dieu nous rend capables de vaincre en nous faisant participer à sa victoire. Dieu nous rend capables de vaincre en nous faisant participer à sa victoire. Évidemment, la force est celle de Dieu. Mais notre rôle consiste à être fortifiés dans le Seigneur et nous revêtir, pièce par pièce, de l'armure de Dieu. Alors appuyons-nous sur Dieu et la force qu'il met à notre disposition pour jouer notre rôle et être actifs au combat. Paul nous encourage à puiser notre force, tenir ferme, résister et tenir ferme à nouveau. C'est un quadruple appel à ne pas vaciller, à être des femmes et des hommes solides, vaillants, en Christ. En devenant chrétien, c'est-à-dire en reconnaissant en Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne sommes pas à l'abri d'obstacles. La vie ne devient pas instantanément toute rose. Les épreuves se poursuivent, redoublent parfois d'intensité à cause du diable qui se démène pour nous faire tomber. Et c'est là qu'il faut veiller, particulièrement, et tenir ferme. Je me souviens du jour de mon baptême, c'était un dimanche, un jour de décembre, un peu comme aujourd'hui, plutôt beau, pas trop froid. De nombreux amis du lycée étaient là, un prof d'histoire aussi. Peu avaient déjà entendu parler de Dieu. C'était une superbe matinée, avec des chants qui me tenaient à cœur, le chant Régnant en moi qu'on a chanté tout à l'heure, qui était mon chant de baptême. Une prédication sur Dieu comme Père, et ce fameux moment où j'ai été plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même si j'avais déjà la tête dans l'eau à ce moment-là. Et je me souviens de cette baignoire bleu piscine, du repas communautaire qui a suivi. C'est un moment magique, comme il y en a peu dans une vie, et qui nous reste, gravé dans la mémoire. Mais l'après-midi, une fois rentré à la maison, en famille, patatras, tout s'écroule. Mes parents étaient en pleine séparation à cette période, et une grave crise s'est produite. Cette journée, je m'en souviens encore, et aussi à cause de ça. Si j'avais, par la grâce de Dieu, effectué un pas de foi ce matin-là, en me faisant baptiser, l'instant de grâce n'a effectivement été qu'un instant, quelques heures seulement, puisque le diable ne s'est pas privé pour tenter de nous atteindre l'après-midi même. C'était finalement ce que le verset 13 nomme un mauvais jour. Satan est rusé. Alors veillons et armons-nous. Prenons les armes que Dieu nous offre, nous en avons besoin au quotidien, dès aujourd'hui et jusqu'au bout. Ces armes, elles constituent la panoplie complète du chrétien. Elles couvrent toutes les parties du corps. Elle est mise à notre disposition par Dieu, ce Dieu qui est le Seigneur des armées dans l'Ancien Testament. Qui d'autre mieux placé que lui pour nous équiper et nous armer face à un adversaire qu'il connaît en profondeur? Les six armes dont il est question ici sont celles de Dieu. Il les partage avec nous pour pouvoir combattre les forces du mal. Je vous invite à relire les versets 14 à 17. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Première arme, la ceinture de la vérité. La ceinture du soldat romain était une pièce en cuir, essentielle pour ajuster la tunique autour de la taille et maintenir l'épée. Avec cette ceinture serrée autour de lui, le soldat se sentait plus fort, plus confiant. Autrefois, se serrer la ceinture signifiait se préparer à l'action. Alors, qu'est-ce que la vérité ? À part un sujet de philo en 4 heures, la vérité dans la Bible, c'est Dieu qui se révèle en Christ et à travers toute la Bible. Avoir la vérité comme ceinture, c'est être rendu libre. On le voit en Jean 8, les versets 31 à 32, je cite « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Mais la vérité, c'est également être sincère et intègre. Dieu veut en effet que la vérité soit au fond du cœur, d'après le psaume 51. Si nous trompons, manigançons, mentons, nous faisons le jeu du diable. Or, pour le combattre, nous devons utiliser des armes plus puissantes. La ceinture de la vérité en est une, car la vérité triomphe toujours du mensonge. Deuxième arme, la cuirasse de la droiture ou de la justice. La cuirasse du soldat romain couvrait à la fois la poitrine et le dos. C'est un élément essentiel donc pour la protection des organes vitaux. Un premier sens peut être dégagé en voyant en cette cuirasse la justification divine, c'est-à-dire l'initiative que Dieu a prise gratuitement pour nous déclarer justes devant lui, en Christ. Si un homme ou une femme, pécheur, tel que nous, peut trouver grâce aux yeux de Dieu sans rien faire, c'est parce que Dieu le désire et le permet. C'est cela la justification. Voilà notre cuirasse. Et il n'existe d'ailleurs aucune protection spirituelle plus efficace qu'une juste relation avec Dieu. Si nous sommes en Dieu, ancrés en lui, nous ne craignons aucun mal. Souvenons-nous du psaume 23. Nous ne craignons aucune accusation du diable, lui, l'accusateur par excellence. Car celui qui nous justifie, c'est Dieu. Et celui qui intercède pour nous, c'est Christ. Un second sens de cette justice, de cette droiture, peut justement évoquer la droiture de notre caractère et de notre conduite. Rester droit, c'est ne pas succomber à la tentation, quelle qu'elle soit. Troisième arme, les chaussures de la bonne nouvelle. La chaussure du soldat romain permettait de marcher de longues heures et garantissait une bonne marche, empêchant le pied de tomber. Voilà ce dont nous avons besoin, d'une part pour tenir ferme par l'évangile que nous avons reçu et accueilli, et d'autre part pour être remplis de zèle dans l'annonce de cet évangile autour de nous. Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix. Citation d'Ésaïe 52. J'aimerais tant que Jésus-Christ me dise plus tard, Pierre-Manuel, qui sont beaux tes pieds. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Cette arme, ces chaussures sont puissantes, car elles arrachent à l'ennemi des membres de notre famille, des amis, des collègues, des inconnus, qui ainsi se tournent vers Christ et reçoivent avec joie et paix cette bonne nouvelle. Quatrième arme, le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons, en toutes circonstances, éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Le bouclier du soldat romain mesurait 1,20 m sur 75 cm. Autant dire qu'il couvrait une large partie du corps. Ce n'était pas le petit bouclier rond d'Abracourcix dans Astérix et Obélix. La foi nous protège des flèches enflammées du diable. Ces flèches, ce sont ces fausses culpabilités qui viennent souvent en nous comme une petite voix dans notre tête. Ces pensées de désobéissance, de rébellion, de convoitise, de méchanceté. Si seulement nous pouvions nous débarrasser de tout cela, qui nous empoisonne le quotidien et envahit notre esprit, eh bien nous le pouvons, grâce à ce bouclier. En effet, la foi nous permet de nous réfugier en Dieu, lui qui est un bouclier pour celui qui se réfugie en lui, d'après Proverbe 30. La foi nous permet de nous mettre en sécurité sous l'aile de Dieu, nous rappeler qu'il nous protège et nous souvenir de ses promesses. Cinquième arme, le casque, en bronze ou en fer. Il désigne le salut en Christ. S'agit-il du salut déjà reçu, c'est-à-dire l'appartenance à Christ, la délivrance du péché, le pardon de Dieu ? Ou s'agit-il de l'attente confiante de la pleine réalisation de notre salut, avec la résurrection dans la gloire et la ressemblance à Jésus-Christ au dernier jour, tel que la Bible nous le promet ? Difficile de savoir, mais peu importe, il s'agit bien du salut, dans tous les cas. Un salut que personne ne peut nous enlever, pas même le diable. Le salut sincère et véritable en Christ ne se perd pas. La Bible l'affirme. Soyons-en assurés et ne laissons surtout pas le diable nous convaincre du contraire. Nous garderons notre casque jusqu'à la mort. Sixième arme, l'épée. Celle de l'esprit, celle de la parole de Dieu. C'est sans doute la seule arme qui permet à la fois d'attaquer et de défendre, si on accepte les chaussures qui nous permettent tout de même d'avancer. Cette épée est courte et acérée. Elle représente les paroles que Dieu place dans notre bouche lorsque nous présentons ou défendons l'Évangile notamment. Elle indique aussi et surtout la puissance de la parole de Dieu, semblable à une épée qui transperce le cœur du pécheur, qui le confond et l'amène à se repentir en découvrant la réalité et la beauté de ce que la Bible présente. L'Écriture est puissante, elle est tranchante. Elle nous donne à voir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Elle nous invite à faire le ménage dans notre vie par des choix courageux. Alors emparons-nous de la Bible, lisons-la, étudions-la et proclamons-la. Revêtons l'armure, saisissons les armes et avançons-nous. Nous avons un combat à mener contre un ennemi bien identifié. Revêtons la ceinture de la vérité, la cuirasse de la droiture, les chaussures de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Voilà l'armure que Dieu nous fournit pour nous défendre et combattre l'ennemi. Prenons notre pleine et entière responsabilité, celle de se saisir de ces armes et de nous en servir pour faire avancer l'Évangile et reculer les puissances du mal. Revêtons l'ensemble de l'armure, car l'ennemi nous attaque de tous côtés, à gauche comme à droite, en haut comme en bas, devant comme derrière. Nous n'oublions donc aucun élément et veillons. Veillons sur nous avec l'aide de Dieu. Paul aurait pu conclure à cet endroit et finir en saluant ses correspondants. Mais s'il ne s'arrête pas là, c'est que la suite a au moins autant d'importance, si ce n'est encore davantage, pour ce combat spirituel à mener. Et je vous invite à relire les versets 18 à 20. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint, et en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Nous approprier les armes de Dieu, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Cela se fait dans la dépendance à Dieu. C'est en Dieu que nous puisons la force nécessaire pour combattre l'ennemi. Nous dépendons entièrement de lui, même si nous avons un rôle à jouer. Et cette dépendance, c'est dans la prière qu'elle s'exprime. C'est dans la prière par l'Esprit, qui est en nous et nous permet d'exprimer nos besoins à Jésus, qui, lui, intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Et si nous prions au combat, c'est pour un exaucement. Or, la prière victorieuse revêt quatre composantes qu'on trouve dans ce passage. Nous devons prier en toutes circonstances, par toutes sortes de prières, avec une entière constance et pour tous les membres du peuple saint. En d'autres termes, je dois prier régulièrement, constamment, de plusieurs manières, sans jamais m'endormir, et pour tous mes frères et sœurs en Christ. Petite anecdote à ce sujet, pas très glorieuse. Avant d'arriver à Paris, lorsque j'étais encore à Lyon, je priais très régulièrement avec Jonathan Larcher, qui vivait alors à l'époque dans l'une des chambres, juste derrière moi. Nous téléphonions en fin de semaine, tard le soir, et nous passions du temps à échanger des nouvelles et à prier l'un pour l'autre. Et une fois, nous étions au téléphone, depuis déjà plusieurs dizaines de minutes, j'étais bien installé, assis sur mon lit, on avait commencé à prier, et tout d'un coup, j'entends Jonathan qui me dit « Pef, Pef, tu m'entends ? Pef, t'es toujours là ?» Je m'étais endormi, alors qu'il priait avec et pour moi. C'était un peu la honte vis-à-vis de Jonathan, envers qui j'ai fait mine de dire « Oui, oui, je suis là, je t'entends bien. » Mais surtout, la honte envers Dieu, qui lui m'avait vu dormir. J'avais des progrès à faire, de sérieux progrès, et j'en ai toujours. Je suis bien trop loin de l'exigence que Dieu a envers moi, prier en tout temps, par toutes sortes de prières, avec une entière constance et pour tous les membres du peuple saint. Et il ne s'agit pas simplement de prier, mais aussi de veiller. Et c'est là peut-être l'exhortation de Paul la plus importante. Elle n'est que le prolongement, la confirmation de l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Souvenons-nous, peu de temps avant la mort de Jésus, Jésus est là, il prie Dieu, son Père. Ses disciples les plus proches attendent en bas. Et ils s'endorment à plusieurs reprises, alors que Jésus les encourage à veiller et prier. Veillons, car le diable rôde. Veillons pour résister à la tentation. Veillons car nous sommes faibles et avons besoin de la protection et de la force de Dieu à tout instant. Veillons car la fin des temps approche et Jésus peut revenir à tout moment. Pour n'avoir pas obéi à cette injonction, celle de veiller et prier, les disciples ont fait l'amère expérience de la lâcheté et du reniement. Ne suivons pas cet exemple douloureux. Veillons et prions. C'est ainsi que nous nous appuyons sur le Seigneur et que nous renouvelons nos forces. À la suite de Paul, qui demande la prière pour lui-même, soyons suffisamment humbles pour demander à nos amis de prier avec et pour nous. Prions que nous soyons ambassadeurs du Christ, que nous annoncions l'Évangile clairement, avec les bons mots et avec assurance. Dieu est plein de ressources et désire faire de notre faiblesse, de notre timidité, de notre difficulté peut-être à parler en public, ou à savoir quoi dire, par où commencer, ne pas bafouiller. Tout cela importe peu pour Dieu. Lui est capable de s'exprimer à travers nous, clairement, et de nous donner l'assurance pour que sa parole atteigne des cœurs et fasse du bien autour de nous. Si des grands hommes comme Moïse, qui ne savait pas quoi dire, ou Jérémie, qui ne savait pas comment parler, sont devenus des agents de Dieu et ont accompli son plan, nous aussi, avec nos faiblesses, et en comptant sur la force que Dieu donne, nous pouvons évangéliser clairement et avec assurance. C'est là la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, pour la femme et pour l'homme, est magnifique. Il est libérateur et offre la vie nouvelle en Christ. Cette vie demande d'affronter un ennemi puissant, mauvais et rusé. En puisant la force en Dieu et en tenant ferme, après avoir revêtu toutes les armes que Dieu lui-même a préparées pour nous, alors nous pouvons combattre. Aux armes, citoyens du ciel, veillons et prions, afin que le diable recule et que le plan de Dieu s'accomplisse. Que la paix nous soit donnée, que la grâce soit avec nous tous. Amen.